Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À quoi joue-t-on au cinéma ? Comme dans la vie, on joue au poker, au billard, au baccarat, à la roulette, aux fléchettes, que sais-je encore ? Oui, on joue au cinéma et l'on peut tricher, c'est plus spectaculaire, mais pas nécessaire. Au cinéma, comme dans la vie, il y a les joueurs nés et les perdants nés. Et le spectateur, qui parfois, avec délice, se fait avoir. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposée pour la première fois sur France Culture le 28 juin 1988.
Bon ben, L'Arnaqueur est un film que tout le monde confond avec L'Arnaque, mais qui n'a rien à voir. L'Arnaqueur, c'est un film américain, noir et blanc, tourné dans les années 50, et c'est le seul film connu d'un réalisateur qui s'appelait Robert Rossen. Et ce qui est vraiment très beau dans ce film, c'est son début. Ça commence, il n'y a pas de générique, pas de titre, rien. On est dans une rue, cette rue est en pente. Une voiture arrive. Une voiture comme ça, un peu moyenne, pas riche, pas pauvre. Enfin, une voiture, une Chevrolet sans doute. Et deux types sortent de cette voiture. Et l'un, c'est un type entre deux âges. Comme ça, il ressemble un peu à rien. C'est vraiment l'homme de la rue. Et l'autre, c'est un sorte de jeune loup souple. Un type qui marche souplement. C'est joué par Paul Newman jeune. Et il rentre dans ce bistrot. Et quand il rentre, on s'aperçoit que c'est un sort de grand bistrot vide où il y a 2, 3, 4, 5 personnes maximum avec le barman qui sont là en train de traîner. Et dès qu'ils sont rentrés dans le bistrot, ils parlent un peu fortement, un garçon, une bière, etc. Et les autres gens qui visiblement sont des chômeurs qui passent toute la journée là, les regardent d'un œil distrait. Et les deux types parlent fortement. Ouais, allez, filme encore un coup, etc. Et ça continue comme ça, une minute peut-être maximum. Et il y en a un qui dit, tiens, t'as vu ? Et là, on voit une salle de billard recouverte d'une toile.
Alors, y a une table ?
Une table de billard, juste. Et il dit, tiens, si on faisait une partie, on peut faire une partie, ouais. Alors, il découvre, c'est ce qu'on appelle une table de pool, c'est-à-dire c'est du billard avec des trous, avec 6 trous. Et il commence à jouer de manière assez ordinaire et tout à coup, la situation des boules est telle que Paul Newman fait un coup très bizarre où une boule heurte une deuxième, qui heurte une troisième, qui heurte une quatrième, qui fait rentrer la bonne boule dans le trou. Et toujours avec cette voix de soulard, il dit « T'as vu ce que j'ai fait ? Génial !» L'autre, il dit « Je parie que tu pourrais pas recommencer !» Tout le monde regarde, évidemment. C'est la seule distraction de la soirée. Tout le monde regarde ce qu'il fait. Ce qu'ils font. Et il dit bien sûr que je pourrais le recommencer quand tu veux. Il dit jamais tu pourrais recommencer. Je te parie 10 dollars. Mais non, écoute, arrête de t'énerver. Je parie 20 dollars. Mais calme-toi. Je parie 50 dollars. Tu veux, je parie contre n'importe qui que je le refais. Et il remet bien sûr les boules dans la situation entre guillemets impossible. Et je parie 100 dollars contre tout le monde, je le ferai. Il dit, calme-toi, on s'en va, dit le vieux copain. Il remet les boules. Il dit, bon, je parie 100 dollars contre la salle, qui s'intéresse. Il sort de l'argent de sa poche et le donne au barman, qui va devenir l'arbitre. Et les gars regardent, et ils regardent les boules, et ils voient bien que c'est un coup impossible. Tout le monde donne petit à petit l'argent pour compenser les 100 dollars, 100 dollars contre 100 dollars, qu'il réussira le coup. Et là, la caméra montre en gros plan le visage de Paul Newman qui vise et qui tout à coup est calme, totalement calme. Et il vise, et là, par une ellipse, très très belle ellipse, gros plan de lui qui vise, plan général, ils sont de nouveau dans la rue, en train de compter les billets, et sur l'écran s'affiche l'arnaque. L'arnaqueur, bien sûr, l'arnaqueur.
Je t'attends dans la voiture, pauvre ballot.
Et sur l'écran s'affiche l'arnaqueur. Musique. Générique de début.
Mardi du cinéma. Les joueurs au cinéma. Une émission de Cécile Amcy. Avec Guy Dana, Jean-Marc Roberts, Philippe Solers, Patrick Binsard, Laurent Thierry Migue, René Tostin et Michel Muselac.
Le film, c'est l'histoire de trois personnages. Le joueur, qui en fait est un excellent joueur, mais qui en fait manque de caractère, de son manager, qui ne sera pas dans le long du film celui qui l'accompagnait au début, mais un autre qui sera joué par George Hiscott, et qui est vraiment un type qui lui propose, je crois, quelque chose dans le genre tu prends... je crois qu'il lui donne 20% de ce qu'il gagne, quelque chose comme ça. Enfin, donc le manager prend 80%. Et puis un autre joueur qui s'appelle Minnesota Fats dans le film, qui est joué par un très gros acteur hollywoodien qui s'appelle Jackie Gleason, qui est gros et en plus qui était un véritable joueur de billard et qui dans le film a fait vraiment tous les coups de billard, les siens bien sûr, et également ceux de Paul Newman. Et donc ça sera l'obsession de ce jeune joueur de finalement avoir la maturité de caractère pour jouer contre cet autre joueur qui est peut-être un peu moins fort que lui, mais qui tiendra le coup le long d'une folle nuit, d'une nuit extrêmement longue, où ils joueront, où l'autre craquera, parce que ce qui lui manque, c'est le caractère. Ce n'est pas le talent, c'est le caractère.
Qui, Paul Newman ?
Paul Newman, bien sûr. Il n'a pas la force de caractère. Il gagne pendant, je ne sais pas, 15 heures de jeu, et il perd dans les deux dernières heures. L'autre type est toujours frais, alors que lui se décompose à vue d'œil. Enfin, c'est superbe. Alors, en fait, c'est un film sur une éducation. C'est l'éducation d'un jeune talent fougueux par ce manager à poigne qui fera de lui un homme, quoi, finalement. D'ailleurs...
Un homme ou un joueur ?
Finalement un homme. Finalement un homme. Il n'était qu'un joueur, il devient finalement un homme.
À trois. La quatre. C'est dans la poche maintenant. Je l'ai battu toute la nuit, je vais le battre toute la journée. C'est moi le meilleur que vous ayez vu, Pacha. C'est moi le meilleur de tous. Même si vous me battez, je serai encore le meilleur.
Tu peux jouer avec lui. C'est un perdant.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Le Kid de Cincinnati, vous l'avez vu il y a 20 ans quand c'était sorti ?
Oui, je l'ai vu il y a 20 ans, puis je l'ai revu il n'y a pas longtemps.
Laurent Thierry Migue.
Alors, vous pouvez me raconter l'histoire exactement ?
L'histoire exactement, oui, c'est l'histoire de l'ascension d'un joueur de poker des bas-fonds de je ne sais plus quel contrée d'ailleurs, qui instinctivement joue très très bien au poker, et puis commence à battre tous les gens de sa région, et puis se promène, et puis gagne à chaque fois parce qu'il sait... Le moment, il sait deviner les cartes des autres, il sait évaluer leur jeu immédiatement et il sait très rapidement savoir à quel moment il faudra les bluffer et puis à quel moment eux bluffent. Enfin bon, il a une vision très claire de ce qui se passe, donc c'est son ascension. Et puis lui, il veut arriver à rencontrer le champion du monde de poker, enfin le champion des États-Unis en l'occurrence. Et donc, on voit sa carrière tout le long de ce film, et finalement, la partie finale, c'est sa rencontre avec ce champion du monde, qui est un monsieur d'une soixantaine d'années, qui a déjà vécu beaucoup, beaucoup de choses, Et lui est sûr de pouvoir gagner. Et cette partie se prolonge pendant 12 ou 15 heures de suite, ou même, je sais pas, peut-être même 24 heures, où ils sont à peu près à égalité. Et puis, sur le dernier coup, bon, pour les joueurs, il y en a un qui a un full caché et l'autre une quinte floche cachée. Et Steve McQueen pense qu'il a le jeu le plus fort, et le vieux, lui, a senti que c'était ce coup-là qui était décisif, et qu'il restait champion du monde parce que il avait su deviner le moment où l'autre était se sentait le plus fort mais était le plus faible, et donc il va lui faire mettre tout son argent, plus des billets, plus des lettres signées, enfin tout, il va foutre sa vie en l'air sur ce dernier coup. Et puis Steve McQueen va le perdre et va repartir les mains dans les poches, complètement ruiné, et ne sera pas champion du monde.
Alors qu'est-ce qu'il a comme jeu, Steve McQueen ?
Je crois que Steve McQueen a deux paires ouvertes, et puis une paire de dames, une paire de 10 ouvertes, et puis sa carte cachée, c'est une troisième dame, ce qui lui fait un full, ce qui est un très très fort jeu au stud, c'est-à-dire au poker américain. Et en face de lui, le vieux champion a ouvert sur la table un 10, un valet, une dame et un roi de carreau, et sa carte cachée est un as, mais un as de carreau, ce qui fait une quinte floche, qui est le jeu le plus fort au poker. Seulement, le problème, c'est que Steve McQueen ne peut pas croire à ce jeu-là, parce que c'est une donne qui peut venir qu'une fois sur plusieurs millions, c'est-à-dire vous la rencontrez excessivement rarement. Donc lui, avec son full, il pense qu'il ne peut pas perdre, et que l'autre va essayer de le bluffer. Voilà, c'est là où il fait l'erreur. C'est que le vieux, avec sa quinte floche cachée, joue comme s'il était en train de bluffer Steve McQueen. Et en fait, il a le jeu le plus fort. Donc il va, tout en voulant le bluffer, en voulant essayer de croire qu'il le bluffe, lui balancer tout l'argent que Steve peut mettre sur la table, et finalement l'autre va perdre. Mais encore une fois, c'est pas une question de carte, c'est une question d'emprise psychologique, c'est-à-dire que le vieux joueur a su faire croire à Steve McQueen, à ce moment-là, qu'il n'avait pas ce jeu-là, mais qu'il essayait de le bluffer. Donc il lui a fait une fausse déclaration de son jeu ouverte, quoi. Enfin, il l'a complètement baisé psychologiquement, si on peut dire.
Il y a la formule jeu, hein, verbalisée à un moment donné par la formule suprême du jeu, qui est formulée par Robinson après la grande partie, la grande consommation comme ça de force.
Philippe Sellers.
Tout ça, d'abord il faut comprendre, le jeu se fait pour rien, hein. Apparemment c'est pour avoir un titre envié ou gagner de l'argent. Mais
si, c'est quand même un rite de passage pour lui qui est un joueur professionnel.
Si vous voulez, mais il faut comprendre que c'est une consommation de bien, de ce qui est utile, hein. Le jeu commence dans le pur défi à ce qui n'existe pas, en somme. Et alors, la formule est verbalisée par Robinson. J'étais très surpris parce que ça donne tout à coup au cinéma, on n'entend pas tellement de choses profondes, hein, philosophiquement, hein. Là, je trouve que c'est une formulation magnifique, mais vraiment magnifique. Et il dit ça, un peu fatigué, il dit oui, voilà, c'est l'art du grand joueur, c'est de mal jouer quand il faut. Ça, c'est très, 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 très fin. Et en effet, c'est peut-être dans le récit, ça n'est pas vraiment souligné, encore que si. C'est parce que Robinson, pas seulement à cause de son âge, implique dans le jeu une sorte de solitude, de fatigue physique, de quasi approche de la mort, hein, qu'il reste malgré tout le plus fort. C'est pas parce qu'il est le plus fort, c'est parce que le jeu en lui et par lui est plus fort que le jeu pour l'autre. Et alors on le voit sur son lit, s'étendre avant la partie, probablement simuler un malaise cardiaque. On voit très bien qu'au fond il s'en fout, qu'il ne tient pas tellement à gagner. Ça aussi c'est très important pour gagner, c'est de ne pas y tenir énormément. Hein. Ça c'est l'art de la guerre qui revient aussi au jeu de Sun Tzu, par exemple. C'est une formule que je me répète très souvent. Parce que elle a sa répercussion dans la pratique tout le temps, puisque la vie est une guerre permanente de tout le monde contre tout le monde. L'armée qui sera victorieuse, c'est celle qui est triste d'avoir à se battre. Et donc les gens comme Clausewitz, Machiavel, enfin tous les rituels là sont impliqués évidemment dans cette affaire. Mais donc ça peut donner un film qui décrit une partie de poker qui va voir s'affronter le vieux maître tenant du titre et le jeune candidat postulant. Alors la règle feuilletonesque aurait voulu que ce soit évidemment le jeune qui gagne quand même. Hein, mais enfin bon, ça aurait été trop simple.
Alors qu'est-ce qui se passe? Il vous dites contre toute attente, il perd. Pourquoi? Parce qu'il essaye de tricher?
Non, parce que le film est très vicieux de ce point de vue. Il fait monter, il fait flamber la narration sur le fait que le vieux roi va perdre, hein. Et donc le spectateur est pris dans la quand même dans l'imagination très très forte que on va assister à la décomposition de l'empire, hein. Que c'est inéluctable parce que il y a cette usure biologique, il y a cette faiblesse qui l'attend de toute façon puisque c'est la loi de la reproduction et de la décomposition des corps. Donc le film c'est on va vous montrer comment le père est tué. Donc ressort évidemment formidable. Sophocle dit, puis là il est fatal que ce jeune et brillant et viril personnage renverse. Bon, alors on croit que c'est ça l'intrigue, qu'on va assister à la décomposition de l'intrigue, ça va être très émouvant et tout, et qu'à la fin, bon, il va peut-être mourir parmi les dans ses cartes, pendant que l'autre lui ravit tout à la fois, c'est-à-dire on sait ce que c'est que le jeu, que gagner au jeu, c'est l'argent, les femmes, bon. La gloire, patati patata. Et puis non, puis alors ça se renverse. Et d'où vient la formule, le grand joueur, c'est celui qui s'est mal joué au bon moment. Parce qu'il y a un moment, on croit que tout est perdu, puis ça se renverse. Voilà. Et alors, qu'est-ce que dans la vie, le fait de jouer mal au bon moment, c'est en effet essentiel. Essentiel. C'est quelque chose qui ne doit pas être décidé presque à la limite. Parce que si vous vous dites que tiens, je vais mal jouer pour gagner, ça ne marche pas. Il faut que ça vous arrive, c'est-à-dire que vous sentiez que vous êtes...
C'est votre problématique actuelle?
Non, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été.
Elle est plus aiguë en ce moment?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que ça arrive, c'est-à-dire que vous voyez avec une sorte de ravissement distant que vos coups portent moins bien, que ça marche pas, et que le jeu lui-même vous donne cette faiblesse. Et vous voyez... Votre adversaire qui est vous-même, si vous voulez faire de la métaphysique, peu importe, mais du moins quelque chose qui s'oppose que vous devez traverser, vous voyez votre adversaire pris au piège de votre propre défaillance, et foncer là où il n'a pas allé. Alors ça c'est un délice pur. Hein, c'est-à-dire vous jouez mal, et c'est le bon moment pour jouer mal, donc vous allez gagner. Mais vous l'apprenez de la situation. Vous la prenez même avec un peu une sorte d'inquiétude, vous ne pouvez pas simuler le fait de mal jouer. Il faut que ça soit vrai. C'est une sorte de passion.
Les motivations qui font que les hommes jouent sont tellement profondes qu'il a semblé nécessaire de les recenser. Les attitudes élémentaires qui commandent au jeu, compétition, chance, simulacre, vertige, ne se rencontrent pas toujours isolément. À maintes reprises, on a pu constater qu'elles étaient aptes à composer leur séduction, a écrit Roger Caillois dans Les Jeux et les Hommes.
Le Gamble, en français, ça avait été traduit comment ?
Par le flambeur, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise traduction. Mais enfin bon, on fait ce qu'on peut dans les traductions.
Jean-Marc Roberts.
Film de Karen Rise avec James Caan. Film très peu connu. C'est une série B, mais c'est une série B qui me paraît sur le jeu, en tout cas, juste, terriblement juste. C'est un film où on comprend que le vrai joueur n'est là que pour perdre. L'homme qui joue, finalement, ce qui l'intéresse, c'est perdre. Ce n'est pas du tout gagner. Et dans tous les films sur le jeu, en général, on voit des gens fous de joie d'avoir gagné. Les films les plus grotesques sur le jeu, c'est Le Kid de Cincinnati avec Steve McQueen, par exemple, qui sont des films ineptes, totalement ineptes, parce que c'est des films pour... l'impression que c'est pour que ça, oui, c'est pour le dimanche soir, pour faire plaisir aux familles, mais c'est pas comme ça. Le jeu, c'est le poison. Enfin, c'est l'envie. Il y a l'envie de se refaire chez un joueur. Il aime perdre pour se refaire, mais au bout du compte, se refaire ne lui suffit pas. Et The Gambler montrait très très bien ça, puisque c'était une sorte d'un homme qui jouait à tout, absolument à tout, aussi bien aux cartes qu'au casino, aux courses. Il tombait sur des gosses qui jouaient au basket dans un terrain vague et il leur disait « je vais vous battre », alors qu'il savait très bien qu'il était moins adroit qu'eux.
Mais il ne faisait que ça, il ne travaillait pas, comme on dit.
Il travaillait bien sûr, il perdait son boulot. Enfin, c'est des choses classiques quand on joue. C'est bon, c'est la drogue, quoi. C'est le même principe.
Mais quand vous dites Le Kid de Cincinnati, bon, film pour les familles, dimanche soir, très inepte, grotesque même.
On ne peut pas faire un film sur le jeu qui se termine bien. Ça n'existe pas.
Il se termine pas bien.
Le Kid de Cincinnati se termine pas bien, mais enfin, il y a l'espoir que le type va arrêter de jouer, ça va aller mieux, une fille l'aime. Enfin bon, tout ça, c'est. C'est bidon. Et il y a une scène, par exemple, qui est intolérable pour les gens qui jouent et qui aiment le jeu dans Le Kid de Cincinnati, c'est qu'au fond, à la fin de la partie de cartes, les deux joueurs qui restent en face à face, Edgar G. Robinson et Steve McQueen, se retrouvent l'un, si je me souviens bien, avec un full et l'autre avec une canne flush. Bon, c'est pas ça le poker. Le poker, c'est une partie de poker vraiment sérieuse. Deux valets vont battre deux 10. Et montrer un carré d'as ou montrer un full ou montrer qu'on a beaucoup de jeux, c'est déjà une aberration, à mon avis.
Mais dites-moi, alors, dans ces films, il s'agissait de joueurs professionnels et dans le film dont vous parlez, Le Flambeur...
Pas du tout.
C'est pas un professionnel.
Non, c'était pas un professionnel.
Parce que le professionnel, dit-on, joue pour gagner.
Le professionnel, oui, joue pour gagner, mais à ce moment-là, ce n'est pas pour moi, le professionnel n'est pas un vrai joueur, comme les écrivains professionnels ne sont pas des écrivains, si vous voulez. Écrire n'est pas un métier, par exemple. Jouer n'est pas un métier. Si on va au bout de la chose, on ne peut pas considérer ça comme un métier, qu'on écrive ou qu'on joue. Alors effectivement, pour terminer quand même sur Le Flambeur, ce qui était formidable, c'est que donc il gagnait, il perdait, il gagnait, parce que comme dans une vie de joueur. Mais à la fin, après avoir perdu, il finissait par provoquer un sale type, un voyou, appelons ça comme ça, pour aller vite dans un bar, et pour se faire flanquer un coup de couteau. Et se regardant dans la glace avec son coup de couteau, il avait un sourire. C'est la fin du film. Il était allé jusqu'au bout de quelque chose. Le jeu peut aller jusque-là.
Quelles étaient les premières images de ce film ?
Les premières images de ce film, je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est une partie de cartes. Ça commence par une partie de cartes. Et je crois qu'au début du film, il gagne. Il empoche son argent sans être trop content. Il y a un autre film qui montrait un peu ça, qui était un film plus léger, mais réussi aussi, c'est California Split de Robert Altman, avec Elliot Gould et George Segal. C'était la folle équipée de deux gars, deux copains, qui lâchaient tout pour aller jouer. Ils étaient joueurs. Et la fin du film, alors qu'ils avaient perdu pendant tout le film, ils gagnaient. Ils gagnaient dans un casino. Et on voyait Georges Segal rendre ses jetons à la caisse pour toucher de l'argent. Et quand il touchait de l'argent, il avait l'air désespéré.
Eddie, ça ne vous fait rien que je devienne personnel ?
Vous ne l'étiez pas jusqu'ici ?
Eddie, vous êtes un perdant né.
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
C'est la première fois que je vois le Pacha prier à l'hameçon, jusqu'à la gauche. Et vous l'avez laissé échapper.
Je vous ai dit que j'étais sous.
Oui, vous étiez sous. C'est la meilleure excuse du monde pour tout lâcher. On n'a pas de peine à perdre avec une bonne excuse. Et pour gagner aussi. Ça aussi, ça représente un lourd fardeau à porter. On peut s'en libérer aussi avec une bonne excuse. On n'a qu'à apprendre à s'attendrir sur soi-même. C'est un des meilleurs sports en chambre que de s'attendrir sur soi-même. Un sport à la portée de tous, et particulièrement des paires d'années.
Merci pour le verre.
Je vais vous parler du meilleur joueur de poker que j'ai jamais rencontré.
Michel Muselac.
Je ne suis pas un grand joueur. Il se trouve que quand j'ai fait mon service militaire, j'avais passé 4 mois à Laval. Laval, ville bien connue pour son bar tabac, son feu rouge, etc. Et j'étais dans une compagnie de transmission, dans un régiment. Et dans un régiment, il y a 4 compagnies, et dans chaque compagnie, il y a un certain nombre de sections, je ne sais plus, 5-6. Et quand on arrivait à cette époque-là, parce que c'était assez loin, on n'avait pratiquement pas d'argent. Et dans ma section, il y avait un gars, comme ça, c'était un petit gars, on avait tous 18, 19, 20 ans, bien sûr. Et lui, il devait en avoir 21 ou 22. C'était un prolo, très sympathique, très gentil, très discret. Et je me rappellerai toute ma vie, il s'appelait Durand. Pas Dupont, Durand. Mais il s'appelait vraiment Durand. Et Durand, bizarrerie, était marié. Ce qui était rare, bien sûr. Pendant une semaine, Durand, on ne l'a pas vu, pas plus qu'un autre, on se connaissait pas particulièrement, et au bout d'une semaine, on a reçu nos premières cigarettes. Ça, c'était des troupes, c'était des sous-gauloises. Et Durand, très innocemment, a dit « Quelqu'un ferait une partie de cartes ?» Et donc, dans la section, il y a eu 3 types pour jouer au poker contre lui, dont moi. Allez, on jouait, et au bout de quelques jeux, on a troqué les cigarettes de troupes contre de l'argent, puisque... Il y avait des gens qui avaient de l'argent, pas lui, il n'avait pas un rond. Et ça a duré un mois. C'est-à-dire qu'il a joué contre... ça a duré un mois, c'est ça. Et il a joué toutes les sections de la compagnie C. Et à la fin du mois, il a envoyé 300 francs de l'époque. C'était en 62-63 à sa femme. 300 francs, c'était une somme. C'était peut-être 2000-3000 francs d'aujourd'hui, à la fin du mois. Et il n'y avait plus personne à la compagnie C qui voulait jouer contre lui. Je suis resté 4 mois là-bas. Il y avait 4 compagnies A, B, C et D. Il avait nettoyé la compagnie C. Il a nettoyé la compagnie A, la compagnie B et la compagnie D. Et à la fin de chaque mois, il a envoyé la même somme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis devenu copain. Et quand on est copain dans le jeu, on peut se mettre derrière le joueur, c'est-à-dire regarder ses cartes. Et je peux dire que je n'ai jamais pu prévoir une seule mise... une seule avance, une seule relance qu'il ait jamais faite. Et ce type-là, son visage, ne donnait vraiment aucune information, mais même sans en avoir l'air. Seulement, il ne faisait jamais ce que j'aurais fait. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais compris comment il jouait, mais je peux dire que régulièrement, il envoyait de l'argent à sa femme.
Il y a 2 choses. Le maître et l'élève, ça indique d'une part que celui qui a la fonction de maître, lui ne défaille pas.
Guy Dana.
Il tient en effet une position de maîtrise et ce qu'il enseigne à son élève, c'est justement à ne pas défaillir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rapport au plaisir, plus que ça, à la jouissance, que le maître s'interdit. Parce que celui qui est trop prompt à vouloir gagner, perd. L'enseignement, s'il y en a un, c'est d'attendre, si on peut dire, le kairos, le bon moment, pour gagner. Et donc ça, c'est plutôt le maître de la stratégie. Ce que ne sait pas l'élève, c'est que, précisément, il peut être dupe de sa propre jouissance. Et c'est ce que le maître lui enseigne.
Vous dites qu'il succombe trop facilement à la tentation.
Il succombe trop facilement à la tentation de gagner, c'est-à-dire, d'une certaine façon, de prendre immédiatement une plus-value de jouissance, quoi. Et ça, évidemment, le maître lui enseigne que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. L'autre... vous pouvez répéter l'autre partie de la question ?
Ce maître intérieur, c'est aussi un maître qui est en soi, un maître contre lequel on lutte. C'est cette espèce d'intériorité à la limite qui nous serait presque inconnue et contre laquelle on joue. Finalement, la question c'est contre quoi est-ce qu'on joue ?
Oui, ou plutôt contre qui ? Parce que, en effet, le joueur est en relation étroite avec une sorte d'ennemi intérieur, quelqu'un qui agit de façon très intime et qui fait que, bon, le joueur se heurte à cet ennemi beaucoup plus qu'à son adversaire réel.
Alors, il y a des films qui expriment beaucoup plus ce type de problématique.
J'aime beaucoup le film de Cassavetes, Meurtre d'un bookmaker chinois, mais on peut songer aussi au film de Melville, Bob le flambeur. Ce sont deux films très différents, parce que Bob le flambeur est plutôt une fantaisie, où, dans le fond, il y a une sorte de surenchère que le joueur va livrer à cet ennemi intérieur. C'est-à-dire que c'est, au fond, de façon très singulière, que c'est lui qui monte les enchères. On se demande bien pourquoi. Mais alors voilà, il s'ennuie à jouer et il décide de dévaliser le casino de Deauville en se disant, bah là, voilà, quelque chose qui vaut la peine. Mais l'ironie de ce film, et qui est d'ailleurs comme un conte pour un joueur, c'est que, évidemment, tout était tout à fait réglé. Le jour et l'heure du hold-up, du casse sont décidés et minutieusement travaillés. Et le héros, ou l'anti-héros, est celui qui rentre dans le casino, qui joue un peu bon, le rôle du cheval de Troie, et qui doit permettre à ses amis de rentrer dans la place et de rafler la banque. Mais, comme on dit, le naturel revient au galop, et il se met à jouer. Et le voilà qui gagne. Et il gagne, et il gagne, et il fait sauter telle table, et encore une autre table, au point que c'est nanti de tous les billets de banque du casino qu'il oublie l'heure du casse, et il sort du casino, il a gagné les millions du casino, donc le vol devient superflu. Et comme il y a une morale à l'histoire, ses amis sont déjà arrêtés par la police qui... devant la lenteur de l'exécution finalement à Hugan Cause, et le voilà accueilli par la maréchaussée qui traînera désormais des sacs de billets en prison. Enfin, tout ça est très drôle, mais indique qu'en effet il y a une sorte de, probablement de répétition contre laquelle le joueur lutte, et évidemment il n'est pas à l'abri d'un acte délictueux. C'est aussi donc la réflexion qu'on peut faire à propos du film de Cassavetes, « Meurtre d'un bookmaker chinois ». Et finalement, le joueur n'imagine pas que cet ennemi intérieur puisse le pousser à une telle extrémité. Il veut bien perdre, mais il n'imagine pas que cela puisse aller au-delà d'une offrande d'argent. Et ce qui se passe dans ce film, c'est que, eh bien, il se trouve confronté à une énorme perte et ses créanciers lui demandent finalement de tuer un homme de la mafia qui probablement les gêne, et il trouve là l'occasion d'un pigeon, parce que c'est dans le fond. Le joueur est toujours à l'affût de quelqu'un qui va subir la perte. Et là, il trouve quelqu'un qui lui fait jouer ce rôle de pigeon. Et il en arrive à un meurtre, chose qu'il n'imaginait absolument pas. Et donc, si vous voulez, la question de l'ennemi intérieur, là, c'est transformé en drame. Parce que celui qu'il tue, croyant, si vous voulez, être toujours en lutte dans le secret, dans son intimité, là il s'agit d'une réalité, le crime a bien eu lieu.
Irruption.
Et le voilà, irruption dans la réalité, et là, l'engrenage lui est fatal. Oui. C'est peut-être justement de ce non-discernement de ce qui est soi et de ce qui est l'autre intérieur que réside aussi une partie, la clé peut-être du jeu.
C'est sûr qu'on sent bien qu'il est déjà pris dans une espèce d'imagerie et qu'il va être piégé par ça. Il ne veut pas faillir à son image aussi.
En effet, et cette image est l'image de quelqu'un qui reste dans la futilité, dans le plaisir facile, dans la séduction, évidemment, toute chose qui, dont il n'imagine pas la fin. Car cette façon de vivre lui est tellement commune, et il y réussit si bien, qu'il n'imagine pas que... qu'après tout les choses puissent changer. Or c'est justement l'ordre du monde qui va changer pour lui, lui rappelant qu'il y a en fait une réalité, même au niveau financier d'argent, que lui ne maîtrise pas, parce qu'il a probablement plus, il vit au-dessus de ses moyens, mais il a encore les moyens de cette perte. Il peut perdre, c'est un homme qui peut perdre. Et ce que lui rappelle au fond le metteur en scène en imaginant cette fiction du meurtre, c'est que l'argent a un sens et que ceux à qui il doit de l'argent ne s'en lasseront pas compter. C'est ça que le joueur n'imagine pas. En fin de compte, tant qu'il reste à un niveau, on peut dire, bon, avec... tant qu'il reste à un niveau de jouissance, si vous voulez, bon, bah ça, évidemment... Tout ça est un jeu de regard, c'est à l'évidence, et donc reste au plan spéculaire du miroir et imaginaire donc. Mais tout d'un coup, ce que lui demandent ses créanciers, qui sont des mafiosi, c'est la réalité de l'argent. Il leur envoie à ça. Et il lui dit, si tu veux t'acquitter de ta dette, eh bien, il faut que tu tues le bookmaker chinois qui se trouve au fin fond de la ville chinoise.
Et d'ailleurs, qui sont très ébahis quand il le fait vraiment.
Et alors, ils sont effectivement très ébahis quand il le fait vraiment, car ils ne s'imaginent pas qu'il est aussi fou. Car qu'il soit pigeon, c'est un fait, mais qu'il soit aussi fou, alors vraiment, cela les étonne. En effet. Parce qu'eux savent ce qu'est la réalité.
Et qu'ils essayent de le flinguer au passage.
Bien sûr, tout ça est destiné à ne laisser aucune trace.
Moi, il me semble que dans les films, le jeu n'est pas vécu véritablement au niveau de ce qu'il représente d'investissement, je dirais, érotique.
René Tostin.
Et libidinal de la personne qui joue comme étant quelque chose de vital pour elle et de tout à fait important et d'ailleurs d'irremplaçable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas remplacer par autre chose. Et le plus souvent, c'est mis dans un contexte un peu compliqué d'arnaque, de voir comment on peut posséder les gens, comment on peut les baiser finalement, hein, enfin ou tout au moins les entourlouper dans une histoire. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de ce film L'Engrenage, où manifestement cette pauvre jeune femme qui en plus était censée, de par son métier de psychanalyste, être parfaitement au fait des choses, se trouve complètement embarquée dans une affaire dont à laquelle elle ne comprend strictement rien. N'est-ce pas? Comme le dernier des derniers, des plus incapables. D'ailleurs, je trouve ça tout à fait satisfaisant dans la mesure où, effectivement, les psychanalystes, il faut bien le dire, sont pas toujours, du fait de leur profession, plus malins que les autres, et que, en tout cas, en ce qui concerne leur propre passion et leur propre vie privée, je dirais qu'ils se brouillent plutôt plus mal que les autres. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, en ce qui concerne le jeu, je dois dire que ce qui est montré dans les films dont je me souviens, que ce soit L'Arnaque, que ce soit celui de L'Engrenage, que ce soit peut-être d'autres dont je me souviens très bien, c'est toujours comment on peut biaiser avec ce qui est finalement quand même un ordre, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui de la réussite ou de l'échec, celui du hasard maîtrisé ou pas, et celui dans la façon dont les choses vous adviennent ou non. Et là, le plus souvent, il y a toujours un tiers qui, semble-t-il, est dans le coup, n'est-ce pas, de façon à ce que les choses soient trompées, ok, une sorte de tricherie. Or, je pense que le véritable joueur n'est pas du tout un tricheur, n'est-ce pas? Ça n'intéresse pas. Je veux dire que le jeu pour un joueur, tricher, ça peut se trouver, ça peut arriver, n'est-ce pas? Bon, je pense que ça peut se produire. Mais ça n'est pas du tout. Enfin, ce sont des professionnels, les tricheurs. Mmh. Hein, ce sont des gens qui, véritablement, pour qui le jeu est un moyen de gagner beaucoup d'argent, si possible.
Mais qui n'est pas une interrogation vitale.
Mais qui n'est pas une interrogation vitale, exactement. Et pour qui, ils font ça comme ils feraient du commerce, comme ils vendraient des tapis, ou je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, pas du tout, quelque chose qui les implique profondément. Et c'est ce qui me semble dans les films, ne jamais avoir été montré, tout au moins, enfin, moi, je n'en ai pas vu. Où on sentirait la psychologie profonde, enfin, et le drame, on peut dire existentiel, de ces gens qui n'ont pas trouvé d'autres moyens finalement d'être au monde, hein, par rapport à ce qu'on peut bien appeler quand même un manque primordial, n'est-ce pas, que d'essayer de le pallier parce qu'il sort toujours un artifice.
I'm going south. South Street Seaport, the man says. He can't stand the heat. He can't stand it.
You want to play cards? The bet is $2,500.
The bet? I'll tell you what the bet is. You're 25.
Jouer avec sa vie. Il y a aussi une chose qu'on pourrait dire sur les films de Cazavette, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, cette espèce de jouissance imaginaire, ce personnage qui se ment à lui-même, qui se fabrique un personnage, justement, c'est quand même quelqu'un de très douloureux. Et là, peut-être avec Voyage au bout de l'enfer, on entre vraiment dans une espèce de douleur, des hommes pris dans des situations vraiment terribles, atroces.
Donc on imagine que le jeu qui se déroule dans un univers de la perte puisse concerner aussi une perte réelle qui est la perte physique, qui est la mort en fait. Et qu'il y ait une relation constante entre le jeu et la mort, ça me paraît tout à fait vrai. D'une part parce que lorsque un joueur est rendu, disons, aux extrémités de se suicider, comme les légendes romanesques en rapportent des cas, 24 heures de la vie d'une femme, par exemple, eh bien la mort, là, effectivement, est en quelque sorte la rançon physique de la perte. Mais au-delà de ça, j'aimerais rapporter une légende qui est tirée, au fond, qui est une légende arabe, probablement irakienne. Voici cette légende. Mais ceci, précisons, a trait, au fond, à cette rencontre fatale, et donc marquée du sceau de la mort, que l'on fait lorsque l'on introduit le hasard dans sa vie. Ce sont les jeux où s'introduit le hasard, hein, à distinguer évidemment des jeux où le hasard ne participe pas, comme le jeu d'échecs, par exemple. Alors, dans ces cas-là, on peut rapporter la légende suivante. Il y avait une fois dans Bagdad un calife et son vizir. Un jour, le vizir arrive devant le calife, tremblant et pâle. Pardonne mon épouvante, lumière des croyants, mais devant le palais, une femme m'a heurté dans la foule. Je me suis retourné, et cette femme au teint pâle, aux cheveux sombres, à la gorge voilée par une écharpe rouge, était la mort. En me voyant, elle a fait un geste vers moi. Et le vizir d'ajouter, « Puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir, de me cacher loin d'ici, j'irai à Samarcande. Et en me hâtant, j'y serai avant ce soir. » Sur quoi il s'éloigna au grand galop, sur son cheval, et disparut dans un nuage de poussière vers Samarcande. Le calife sortit alors de son palais, et lui aussi rencontra la mort. Et lui dit, « Pourquoi avoir effrayé mon vizir, qui est jeune et bien portant ?» Et la mort répondit, « Mais je n'ai pas voulu l'effrayer. En le voyant dans Bagdad, j'ai eu simplement un geste de surprise, car je l'attends ce soir à Samarcande. » Enfin, cette légende, ce conte, disent bien au fond ceci, c'est que la mort, c'est le maître absolu. Et dans le fond, lorsque nous disions tout à l'heure que le joueur se heurte à cet ennemi intérieur dont il fait un tout-puissant, eh bien, on comprend aussi que ce puisse être la figure de la mort qui lui soit parfois substituée. Et finalement, le joueur joue avec la mort parce qu'il y a en la mort une façon de dire le maître absolu. Et c'est pourquoi dans le film de The Deer Hunter de Cimino, qui rapporte une sorte de dérive, on peut dire, en pleine guerre du Vietnam, j'aime beaucoup, je dois vous dire, ce film, justement à cause de ce destin tragique qui n'est souvent évidemment que la face cachée de la guerre, et plutôt que de rentrer dans un discours explicite sur la guerre, je trouve que l'auteur là a voulu rentrer au contraire sur une sorte de façon implicite de dire à quoi les guerriers sont confrontés, et en particulier là une sorte de jeu terrible. C'est la roulette russe, en fait, ils jouent à la roulette russe, chacun brave l'autre du pouvoir de résister, hasard aidant, au fait qu'il y a deux balles qui sont introduites dans un barillet qui compte, je crois, 8 coups, et bien donc 2 sur 8, 25% de chance de mourir.
Mais si je me souviens bien, le personnage... qui s'adonne à cette pratique, finit par le faire vraiment comme une marionnette. C'est devenu un vrai drogué du barillet à 8 coups.
En effet, c'est-à-dire qu'il a commencé d'abord cette bravade avec la mort, le maître tout-puissant, dont finalement il usurpait un peu la force. C'est pour tenir, c'est ça qui est incroyable. C'est que dans le fond, le film dit que c'est pour tenir le coup de cette guerre insupportable que finalement cette dérive, ce jeu avec la mort, devient une façon paradoxale de rester en vie. Parce qu'on puise dans cette force, évidemment de façon imaginaire, elle est conférée de façon imaginaire, cette force, eh bien on lui prend quelque chose, et à chaque fois on tient encore le coup. C'est atroce, mais c'est comme ça, je crois en effet, que peut-être certains soldats pendant la guerre du Vietnam ont pu survivre. S'ils ont survécu à ce jeu incroyable.
Parce que à ce jeu incroyable, il y a toujours un perdant. Ça continue jusqu'à ce que quelqu'un meure.
Ça continue jusqu'à ce que quelqu'un meure. Non, en vérité, il y a une somme d'argent qui est misée, et puisqu'ensuite le film montre que partie d'une sorte de relation entre soldats américains et vietnamiens, ensuite, en effet, cet Américain égaré en dérive finit par servir d'appât dans une maison qui est un véritable tripot, et donc on se sert de lui. Donc on le met en jeu, sa vie comprise évidemment, mais un certain nombre de fois, je crois. Mais bon, ceci relève ensuite d'une oui. sorte de fiction intérieure au tripot, c'est pas très intéressant.
Oui, non mais bon, enfin ce qu'on peut ajouter, c'est que au départ, ce sont des prisonniers, c'est pas un jeu entre des Américains et des Vietnamiens,
sont en effet au départ des prisonniers américains de Vietnamiens qui les obligent à jouer à ça, et ils y prennent goût en y puisant une force.
Le film Poker, sur le poker fermé, alors là c'est un peu plus tous les côtés sordides des pokers où on finit au petit matin, ayant perdu beaucoup d'argent, se demandant encore pourquoi on a... Parce qu'on se culpabilise énormément quand on perd, par contre. Et puis, pourquoi on a été se mettre dans ce coup fourré et comment on va faire pour s'en sortir. Et bon, ça, c'est tout le côté sordide de ce jeu-là qui a été accentué dans ce film. La déchéance.
Poker, c'est un film dont le personnage principal est une femme.
Le personnage principal est une femme. Enfin, disons qu'il y a deux personnages. Il y a aussi un homme qui a beaucoup vécu de choses au niveau du jeu et qui regarde cette femme s'enfoncer désespérément dans ce jeu. Et lui, ayant déjà vécu tout ça, est un des seuls à comprendre la situation exacte de ce film.
Et comment elle arrive là, cette femme ?
C'est l'engrenage. C'est l'engrenage, c'est le jeu, c'est la prise du jeu en elle, et puis le besoin après d'aller jouer, de vivre des sensations, bon, de s'enfoncer désespérément dans ce jeu pour vivre quelque chose comme tous les joueurs à un moment ou à un autre. Et puis il arrive un moment où elle perd beaucoup plus qu'elle ne devrait. Et puis c'est la recherche désespérée de l'argent pour payer, parce qu'en fait elle est tombée dans un milieu assez dur qui ne pardonne rien. Voilà.
Enfin bon, cette recherche de la sensation, elle arrive comme ça, un beau jour, un beau matin, on se réveille en se disant bon, ma vie est tellement vide qu'il faut que je recherche des sensations nouvelles.
Non, au départ, on commence par jouer, parce que bon, le jeu fait partie de l'homme, et puis le poker est assez vicieux pour ça, c'est qu'il vous très vite, ça devient comme une drogue, parce qu'en fait, la vie de tous les jours ne provoque pas ces sensations ou de bonheur intense quand vous avez un coup très heureux, ou de déchéance totale quand tout va très mal, et puis il y a aussi cette espèce d'aspect psychologique, de puissance que l'on peut avoir à une table quand vous sentez que vous avez à votre main toute la table, que vous avez l'impression d'être le roi, à la limite de manipuler tout le monde. Donc ce sentiment-là est assez exaltant. Il peut l'être dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que vous enfoncez désespérément dans cette espèce de rattrapage dont on sort jamais, en fait, parce qu'il y a des soirées qui sont complètement néfastes, et puis vous dépassez complètement le cadre réel pour réellement à la fin ne plus savoir où vous êtes, quoi.
Let's just complete this transaction.
I think that's probably wise.
And this check had better be like gold, you understand? Or I'm coming back here because I won this money.
Okay, okay, okay. Are you all right? Cool it, man. Just cool it, please. You gotta get your money.
Je crois que tous les films qui expliquent, par exemple, si on parle,
si on parle
d'engrenage, House of Games, qui est sorti il y a peu de temps, moi, ce qui m'insupporte dans ce film, c'est précisément qu'on explique tout. Ils sont là à faire de la psychologie. C'est un film, si vous voulez, moi, le cinéma américain de ces 10 dernières années, Woody Allen mis à part, m'est insupportable. Pour moi, c'est un cinéma réganien, et même ce film-là, Engrenage, est un film réganien. C'est un film où on vous montre à la fin du film que cette pauvre femme était faite pour tuer, pour faire du mal, qu'elle avait ça en elle, etc. Et ça, je trouve ça insupportable, quoi. Je trouve ça médiocre. Et tous les films américains se ressemblent, finalement, quels qu'ils soient, les séries B, les séries A, les séries ce que vous voulez. C'est-à-dire que tous les exemples du film américain récent, moi...
Vous allez vite en besogne, là, attendez. Elle était faite pour tuer, mais attendez, racontez-nous l'histoire.
Non, mais House of Games, c'est l'histoire d'une psychologue, enfin, qui s'occupe des problèmes des autres, et qui donc, elle, n'a apparemment pas de problème, et qui tombe d'abord amoureux, je pense, d'un homme qui joue, d'un véritable escroc, d'un professionnel du jeu, etc., qui l'entraîne là-dedans, et elle se fait entièrement berner, arnaquer par lui, etc. Mais pourquoi se fait-elle arnaquer par lui? C'est parce qu'au fond, elle n'avait besoin que de ça, elle était faite pour ça, depuis son enfance, sans doute, ça remontait même à la naissance, elle était née comme ça, elle était née pour... Bon, ça, c'est, je trouve ce discours, moi... Parce que là, on explique, quoi, là, on montre... J'aime pas les explications, moi. Il faut faire le chemin tout seul. Mais je vous raconte mal parce que j'aime pas le film, donc j'ai pas envie de le raconter bien.
Cette femme, là, dont c'était ce personnage femme, d'abord, c'est rare qu'il y ait des femmes introduites dans les films de Jeunon.
Si, si, il y a un film qui s'appelle La Flambeuse, avec Léa Massari, je crois, que je n'ai pas vu. Donc je ne peux pas porter de jugement dessus, mais qui racontait aussi l'histoire d'une plongée. Mais Caroline Cellier et Pierre Arditi récemment dans Poker, que je n'ai pas vu non plus, parlaient de ça. C'était une femme qui jouait. Si vous voulez, c'est comme les films sur l'alcoolisme. On a longtemps montré des hommes qui buvaient, puis un jour, on a fait un film avec Suzanne Ward sur l'alcoolisme. Donc même, ils ne savent plus quoi faire, en fait. Donc ils font des films. Ils prennent des femmes à la place.
L'arnaqueur. L'arnaqueur, c'est un film sur une histoire de joueur de billard aux États-Unis.
Patrick Pinsard.
C'est un film mythique. Pour moi, il est loin et très proche dans ma mémoire. Ça fait partie des grands, grands films mythiques du cinéma américain, pour moi, que j'ai adoré. Il est très proche, d'une certaine façon, des films de Nicolas Ray, dont La Forêt interdite. Tout ça pour en venir à L'arnaqueur, qui est non pas seulement l'histoire d'un joueur de billard, c'est un peu comme dans les romans de Conrad ou de Melville, il s'agit d'autre chose, il s'agit de l'histoire d'un homme qui est à la recherche de la figure de son père et d'une confrontation, d'un corps à corps, on pourrait dire, avec son père. C'est important, parce que c'est un film sur le jeu et c'est un film sur une certaine lumière, qu'on pourrait dire proche d'une certaine lumière phallique. Et je pense que dans les films sur le jeu, il y a, les grands films sur le jeu, il y a toujours une certaine lumière qui est celle des endroits où l'on joue, qui sont toujours des endroits de pénombre ou des endroits électrifiés avec une lumière électrique. Mais je pense à Shanghai Gesture, par exemple, bien sûr, le film immense de Sternberg. Mais dans le cas présent du film de Rosen, ce qui était très beau, c'est que la lumière avait un rôle absolument précis, tout à fait... presque biblique, on pourrait dire, c'est-à-dire c'était une lumière d'apparition et une lumière complètement liée, je crois, à la thématique du phallus, une lumière d'éclair, de contre-jour, de percées, des sortes de percées lumineuses sur des arrières-salles et toute cette ambiance qui était extrêmement voulue par Rosen. Donc je crois que c'est un grand film sur le jeu qui, encore une fois, ne veut pas dire seulement convoquer la chance, mais probablement et sûrement même convoquer un autre partenaire en face à face. Et là, c'est évident que tout le film se débat et se joue entre Paul Newman, donc qui est l'apprenti, et Minnesota Fat, Jackie Gleason, qui était ce personnage extraordinaire, Orson Wellesien, énorme et en même temps d'une souplesse extraordinaire, un peu comme Langlois, personnage qui danse quand il jouait au billard, et qui regardait ce jeune homme s'approcher de lui avec une certaine ironie paternelle.
Comment perdrais-je? La 12. C'est vrai, comment perdrais-je? Parce que tu avais raison, Bert. Ça n'est pas suffisant d'avoir des dons. Il faut avoir aussi une force de caractère. La 4.
caractère, j'en ai aujourd'hui. Ça m'est venu dans une chambre d'hôtel de Louisville.
Joue un peu plus vite, tu veux, Eddie?
Je joue vite, Pacha. Quand je raterai mon coup, ce sera à toi. La 5. La 14. La 3 maintenant.
Cent vingt-cinq, parti. Parti.
La femme de Paul Newman dans le film est toujours en porte-à-faux. Elle est dramatiquement en porte-à-faux. Si je me souviens bien, elle boit. Et il y a une scène très pénible où l'impresario, on peut dire, ou le manager de Newman, qui est un acteur fantastique, lui demande de s'écarter du challenge, c'est-à-dire lui dit d'ailleurs qu'elle s'accroche aux branches. Je me souviens, c'est une phrase très dure, comme ça, elle dit « Tu ne fais que t'accrocher aux branches ». Et en fait, la femme disparaît dans le film et je crois bien se suicide. Enfin, ça termine très très mal. Effectivement, c'est elle qui fait probablement l'économie de cette histoire et de cette initiation.
J'aime vraiment ce luxe.
Quel luxe? Ici?
Ah oui, ce que t'appelles la grande vie.
Oui et non. Par moments, ça m'amuse. Mais le manque de luxe ne me gêne pas. En plus, je veux dire que je n'en souffre pas.
Pourtant, tu joues bien pour gagner de l'argent.
Moi, absolument pas, j'aime pas l'argent. D'ailleurs, tu vois bien ce que j'en fais quand j'en ai. Si je mets l'argent, je le gaspillerai pas. Non. Ce que j'aime justement dans le jeu, c'est cette existence idiote faite de luxe et de pauvreté. Et aussi le mystère des chiffres, le hasard. Je me suis souvent demandé, par exemple, si Dieu régnait sur les chiffres. Mais tu n'es peut-être pas croyant.
Non.
Alors tu t'es jamais posé cette question?
Non, jamais.
Quand je suis entrée pour la première fois dans un casino, j'ai eu l'impression d'entrer dans une église. J'ai ressenti la même émotion. Mais ne ris pas. Essaie de me comprendre.
Je ne ris pas.
J'essaie de t'expliquer pourquoi le jeu est devenu ma religion et tu ricanes. Le gain, l'argent, ne signifie rien pour moi. Ni cette robe, ni cette chambre, rien. Et ça te dépasse probablement. Oui.
L'intérêt de l'Abbé des Anges, c'est qu'à aucun moment, je crois, il est question pour eux de choisir entre leur amour et leur amour du jeu. Il en est toujours question, bizarrement.
C'est lié.
C'est lié. Mais je veux dire, l'amour de l'un éclaire l'amour de l'autre. C'est en quoi le film est magique et immoral, si on veut.
Tandis que dans les films sur les joueurs, ils ont parfois des petites amies, mais c'est jamais des grandes passions. C'est clair.
Oui, ils ont des poules. Ils n'ont pas d'amour, je pense. L'Abbé des Anges, c'est pour moi un des plus grands films de Jacques Demy. Ce n'est pas un de ses films les plus connus, et pourtant, réellement, un de ses plus merveilleux films. C'est l'histoire d'un couple de joueurs, Claude Mann, Jeanne Moreau, qui se déroule dans la baie de Nice, la baie des Anges. C'est l'histoire d'une rencontre et d'un amour fou entre ces deux personnages et de leur volonté à la fois de quitter le jeu et de leur impuissance réellement à le quitter. Et pourquoi? C'est parce que c'est le jeu qui les a réunis. C'est sans doute ce troisième terme qui est le jeu et la convocation de la chance, ce qui se passe autour d'une table de roulette. Et c'est le jeu qui peut les garder ensemble, qui peut faire que ce couple existe et vive et que cette passion sublime se continue. Et donc ils sont complètement corps et biens liés à ce jeu, à cette passion qui est le jeu. C'est-à-dire que ce qui est très beau, c'est que la passion du jeu est leur propre passion, la passion de leur corps, leur amour, etc., toute la sensualité qu'il y a dans ce film n'est pas contradictoire. Au contraire, il y a une sorte de ludisme permanent
et les choses s'enchaînent. Je me rappelle d'une scène comme ça où Claude Mann s'achète beaucoup d'objets. Je crois qu'il s'achète une voiture, une Buick Roadmaster, je crois un truc formidable. Et puis comme ça, avec Jeanne Moreau, il flambe comme ça, il descend dans les plus beaux hôtels. Il y a un côté comédie américaine un peu. Et puis cette façon où le jeu est très bien filmé. Les scènes du casino. Et Jeanne Moreau est complètement géniale. Et il y a une scène dans un vieux quartier de Nice, dans une chambre d'hôtel, où Jeanne Moreau a décidé de quitter Claude Mann. Ça se passe dans une petite rue, cet hôtel, avec une femme en bas, je me souviens, qui est la gardienne. Et puis les bruits, on entend de la chambre, toute une scène très bien filmée dans cette chambre. On entend les bruits de la rue, les enfants, tout ça, qui joue dans la rue de ce vieux quartier de Nice. C'est très 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 beau ce film. Que c'est fait avec une grande simplicité. C'est un film qui ne veut rien prouver, sinon que le jeu est une chose magnifique pour ceux probablement qui s'y adonnent avec passion, et que c'est aussi beau de jouer à la roulette que probablement de danser ou d'aimer une femme. C'est un peu la même chose, ou de faire un très bon repas. Enfin, il y a quelque chose du mystère de la vie, de l'inconnu qui se donne. Et c'est pas du tout un film moralisateur, ni dans un sens ni dans l'autre. Il fait pas l'apologie du jeu, il ne fait pas l'apologie des gens qui ne veulent pas jouer. Il ne veut rien prouver, c'est simplement la vie, l'instant. C'est une sorte d'éternité, de beauté de ce couple qui est complètement largué. C'est-à-dire que il n'y a pas, ils sont l'un et l'autre et le jeu, les tables de jeu. Ils n'ont pas d'amis. Si, très brièvement, il y a une scène effectivement avec un homme qui est un ami de Claude Mann, effectivement, mais disons que leur passion le tient lieu de film.
Je suis partie très vite, j'ai pas eu le temps.
Faites bonjour, monsieur.
23.
30 000 au 23.
Deuxième douzaine.
3 000 douzaine.
J'ai l'argent, je rentre à Paris.
Je te retiens pas.
Avec quoi tu joues, t'avais plus un sou.
Ma montre.
Rien ne va plus.
Tu veux pas jouer?
Viens avec moi.
Non, Jean.
Et tu t'en sortiras pas. Viens. Viens avec moi.
Laisse-moi tranquille, tu vois pas que tu me fais perdre, va-t'en. Jean!
Si je me souviens bien, Claude Mann et Jeanne Moreau décident finalement de se quitter. Après une très longue scène d'adieu, ils décident d'en finir, de se séparer. Et la fin, il me semble bien que Claude Mann, alors que Jeanne Moreau était censée avoir quitté la ville, retourne une dernière fois au casino. Ça se passe donc à Nice. Et il traverse les salles du casino et brutalement vient à sa rencontre en courant Jeanne Moreau. Et je crois que le dernier plan du film, avec la musique de Michel Legrand, qui est très très belle, et une sorte de rappel, il me semble, dans les miroirs, un peu de leur image qui s'étreint. Donc ils s'étreignent et la musique part et s'amplifie et ils tournent l'un avec l'autre.
Le joueur, nous avons vu cette problématique de l'ennemi intérieur, de la mort qui l'accompagne. Il y a aussi cette fonction quasiment religieuse, parce qu'enfin, il faut y croire à tout ça, même dans le cas de The Deer Hunter. Ou dans le cas de L'argent de la vieille. À ce moment-là, on arrive à un schéma plus banal qui est, comment se fait-il que l'on confère tant de pouvoir et tant de puissance et tant de savoir, surtout de savoir finalement, au hasard? C'est-à-dire que, bon, on rentre dans tous les schémas de superstition, on rentre dans tous les schémas où, par exemple, si vous connaissez le livre de Reinhardt, un Américain qui a écrit un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « L'homme dé ». Alors voilà quelqu'un qui se met à jouer au dé et qui décide, les dés, ce sont les dés, qui décident de tout dans son existence. Alors va-t-il prendre l'ascenseur? Il le demande au dé. Va-t-il quitter sa femme? Il le demande au dé. Va-t-il entreprendre une analyse? Il le demande au dé. Enfin, etc., etc. Il se trouve que c'est lui-même, il est un psychanalyste. C'est ça qui est assez drôle. Bon, enfin, la chose est traitée avec beaucoup d'humour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fond, le jeu met toujours dans la corbeille, si on peut dire, une part de croyance qui est quasi-religieuse. Parce qu'enfin, donner tant de pouvoir à un dé, ou donner tant de pouvoir à des cartes, ou donner tant de pouvoir à une roulette au casino, ou à des chevaux de course, etc., etc., donner tant de pouvoir aux signes, c'est une fonction religieuse. Et le joueur, comme d'ailleurs dans Bob le Flambeur, est quelqu'un qui se restreint, mange très peu. Lisez par exemple le témoignage de Derry Cole, qui s'appelle, je crois, Le Flambeur d'ailleurs. Bon, vous verrez à quel point cet homme, quand il était sous l'emprise, comme on dit, l'emprise, mais comment on est dans l'emprise? On est dans l'emprise aussi quand on est religieux. Bon, il était dans l'emprise du jeu, et à ce moment-là, il se restreignait, il ne mangeait pas. Tout l'argent qu'il gagnait devait être consacré, comme, je dirais, à l'autel, on dirait à l'autel, n'est-ce pas, de la dévotion. Bon. C'est, donc, je crois que vraiment, il y a un côté mystique. Mystique est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a une sorte de mise en scène religieuse par la solennité et par la sacralisation des signes. C'est pourquoi, si on peut dire, le fait de jouer ou de ne pas jouer est lié, enfin, pour un joueur en tout cas, il s'agit de destituer quelque chose. Mais quoi ? Il s'agit de destituer, justement, ce savoir qui est conféré aux signes du jeu, comme si ces signes avaient un pouvoir quasiment religieux. Je dois dire que, en l'occurrence, pour ne plus jouer, il faut devenir athée. Hein? Bon, alors, il faut comprendre par quoi... qu'est-ce qui se passait quand on était dans la religion, si on peut dire, du jeu? Ça veut dire qu'on donnait du pouvoir, de la consistance. Hein? On peut même dire que c'est de la consistance donnée à l'inconscient, si vous voulez. C'est ça qui est... Et ça, effectivement, c'est une catastrophe.
Un joueur risque sa peau, parce que ça rejoint ce que je disais sur James Caan, qui prend un coup de couteau à la fin du film et qui est presque content de l'avoir pris. Moi, je pense souvent à Pierre Goldman, que j'ai bien connu à une époque, parce que j'avais publié son seul et unique roman, et qui était un vrai joueur, pour le coup, hein, un vrai, qui allait pour perdre, qui allait pour s'enfoncer, qui allait pour jusqu'au bout du truc. L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport, qui est son seul roman. Et il est mort donc peu de temps après, et à mon avis il est mort à cause de ça. Je dis ça, j'ai pas de preuves, j'étais pas là.
Il y a une atmosphère qui entoure le joueur?
Non, mais je pense que quand on a trop de dettes, quand on joue avec des gens avec lesquels Pierre devait jouer, je pense qu'il a laissé sa peau, oui. Il a risqué et perdu sa peau à cause de ça, mais il le voulait sans doute aussi. C'est des choses qu'on... Parce que ce qui est intéressant, c'est de jouer des sommes importantes, de jouer au-dessus de ses moyens, de ne plus se contrôler. Genre si on y va... C'est pour ça que les casinos sont moins excitants que le poker, parce que les casinos, à moins de connaître, d'être très connus, d'être un milliardaire, type Empain ou un autre, on est limité, on a une somme d'argent sur soi et puis on prend pas vos chèques, donc on arrive avec ce qu'on peut perdre finalement. Une partie de poker, on ne sait pas. Il y a des parties de poker qui commencent à 3h après-midi comme ça pour rigoler, et au terme desquelles on peut perdre 4-5 briques comme ça, je veux dire, alors que c'était pas fait pour ça. Et à l'inverse, il y a des parties de poker qui démarrent en disant on va faire une grande partie de poker, et puis il y a des écarts de 500 francs. Bon, les écarts de 500 francs, ça n'amuse personne finalement, quand on est un vrai joueur. Mais je crois qu'on ne peut pas jouer, par exemple, le poker, les jeux de casino, les courses, donc ce qui intéresse vraiment les joueurs, ne peuvent pas jouer sans... On ne peut pas ne pas intéresser la partie. On peut pas. On peut jouer au tennis sans intéresser la partie. On peut jouer même à la pétanque, son intérêt est parti, mais on ne peut pas jouer à ces jeux-là sans argent. Ça n'a aucun intérêt. Aucun.
Et vous, quand vous jouiez, vous aviez cette espèce de masque d'impassibilité qui est censé accompagner le vrai joueur?
Oui, parce que je suis un très bon comédien, je crois. Ma mère était comédienne, mais elle a un cours de théâtre, donc je crois que j'étais à bonne école. Et ça, on n'a jamais pu lire sur mon visage, je crois, le jeu que j'avais dans les mains.
Ça vous procure une jouissance, ça?
Oui, ça oui.
Ouais.
Oui, ça c'était même extraordinaire. Et d'ailleurs, le poker, à cause, est sans doute le seul jeu où j'ai gagné. J'ai perdu au casino, aux courses, partout. Enfin, si je fais l'addition, quoi. Ou plutôt la soustraction. Le poker, je gagnais parce que je masquais bien, quoi. Je masquais bien les choses. Je ne montrais pas.
On ne montre pas et on voit.
Oui. Oui, moi je regardais bien, je crois que j'ai toujours bien regardé les autres, et j'ai jamais laissé passer. En plus, je crois que je devais être par moments insupportable à une table de poker parce que je parlais pour les énerver souvent, alors qu'on n'a pas à parler.
Ça brouille.
Oui, mais par exemple, quand je relançais sur un coup important... et qu'un type hésitait, au lieu de garder le silence, je lui disais, paye, tu verras. Bon, des choses comme ça, qui rendent fou. C'est ça, le poker. Hein. Et ça, disons que c'est une des... Moi, si vous voulez, la seule chose que j'ai aimée dans Engrenage, on parle un peu dans tous les sens, mais tant pis, c'est précisément le début de la partie de poker au début du film. Ça se passe comme ça. Bon, et puis après, quand on voit la supercherie, je marche plus, parce que c'est pas vrai. Mais le début de la partie, c'est comme ça.
Bingo, do it again.
Ouais, la sexualité d'un joueur, les femmes pour un joueur.
Bah, les femmes pour un joueur, comme les hommes pour une joueuse, ça finit par ne plus compter du tout. C'est l'un ou l'autre. Si on est, encore une fois, un vrai joueur ou une vraie joueuse.
Back over my shoulder. Kind of bearded cowboy shirt. You see him?
Yes.
He's from Las Vegas. He's been beating me all night. He's got to tell, okay? When he's bluffing, okay? He plays with his little gold ring. And I caught him doing it. He knows I did, so he stopped. He's conscious of himself. I want you to do me this favor.
What's that?
I want you to be my girlfriend for a while. Come in the game, stand behind me, watch me play. We get in a big hand. I go to go pee. You watch this.
On parlait justement de l'aspect mental du poker qui est quelquefois beaucoup plus important que l'argent ou les jetons en eux-mêmes. Et donc je trouvais qu'au cinéma, à part le dernier coup du kit de Cincinnati où on voit vraiment l'emprise du vieux sur Steve McQueen, je trouve que les films de poker ne vont jamais sur ces aspects-là, sur le pur mental des gens, à ce jeu-là, en oubliant en fait effectivement le côté ou sordide ou gain facile.
Ça reste superficiel.
Ça reste superficiel et en fait, chaque personnage du table de poker pourrait dans sa tête faire un film à lui tout seul, quoi, dans sa psychologie du jeu propre à lui, dans toutes ses combines, dans toutes. Il y a autant de relations sur une table de poker, je trouve, qu'entre un homme et une femme dans la vie. Bon, les relations homme-femme de liaison fatale, ça peut être aussi forte au poker. Entre deux personnes, ça peut aller jusque-là.
Et ça se termine de façon aussi sanglante ?
Ça peut se terminer de façon aussi sanglante, bien sûr, oui.
Pourquoi c'est un milieu un peu... milieu ouais. C'est un milieu avec un M majuscule.
Oui, c'est un milieu aussi. Bon, il y a le milieu joue au poker et le milieu joue de grosses sommes au poker. Et quand il faut assurer, si vous perdez, il faut assurer derrière. Vous n'avez pas le droit de vous en aller les mains dans les poches. Donc ça peut arriver. Oui, bien sûr.
Non, mais c'est vraiment un milieu qui est lié au milieu?
Non, mais le milieu joue, mais oui. C'est pas bon. Donc vous pouvez jouer au poker, effectivement, les grosses parties, on peut, il y a le milieu, moi je sais pas trop ce que c'est le milieu, mais enfin disons, la mafia ou les gens qui gagnent de l'argent facilement, en dehors des lois, joue au poker aussi, puisqu'il faut, il faut le dépenser facilement, cet argent aussi.
Et donc, à part donc, cette scène du, cette dernière scène du kit de Cincinnati, au cinéma, ça reste toujours comme ça, une espèce d'ébauche.
Oui, on n'est jamais rentré réellement dans la psychologie des personnages, et aussi bien dans ceux qui gagnent que ceux qui perdent, ou leur tournure d'esprit, le phénomène...
La passion du joueur au moment même où il joue.
Voilà, oui, c'est ça. Mais en fait, bon, ça s'intéresse surtout à, quand on dit passion du joueur, c'est dans le phénomène perte ou décadence. Bon, ça, c'est un côté du jeu, etc. Mais on s'y intéresse beaucoup plus quand on voit une partie d'échecs, d'ailleurs. D'un championnat du monde d'échecs, on s'intéresse beaucoup plus à l'emprise de l'un sur l'autre que dans une partie de poker. Et à mon avis, dans une partie de poker, au bout d'un moment, on oublie l'argent, les jetons, enfin moi, en ce qui me concerne, et on ne s'intéresse plus qu'aux tics, aux manières d'être, à la recherche de soi-même, de chaque personne autour de cette table, à travers le jeu. Et donc, si on sait habilement remarquer tout ça, on peut arriver à manipuler les gens comme ça. Et ça, je trouve qu'il devrait y avoir un film de poker beaucoup plus là-dessus, la manipulation de l'esprit plutôt que de l'argent.
Et y a ceux qui s'en rendent compte et qui changent d'attitude, leur comportement, leur tic à chaque fois, puis ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais ceux-là, ils perdent forcément.
Oui, ceux-là perdent, oui, ceux qui n'arrivent pas à... Oui, bien sûr, mais quand on le sait, on fait attention. Ceux qui ne font plus attention à leur manière de jouer, finalement, arrivent à avoir des tics dans leur manière de jouer. Donc, on peut arriver à lire pratiquement ouvertement leur jeu sur leur figure, sur leur manière de parler ou de relancer ou de ramasser leurs jetons.
Et ça, c'est une constatation qu'on se fait à soi-même. Est-ce que ce genre de constatation se partage avec les autres joueurs ? Pas ceux concernés, pas celui ou celle concernée.
Non, ce sont des discussions assez rares, en fait. Chacun garde pour soi ses constatations. A peur de livrer ses secrets, en fait.
Et cette femme qui chantonnait, là, vous pouvez nous raconter
Ah bah oui, je jouais récemment à une table où une femme, à chaque fois qu'elle lançait une grosse somme d'argent sur la table, si elle avait du jeu, elle était très très sérieuse, et si elle bluffait, elle chantonnait en même temps. Et elle s'en est toujours pas rendue compte, donc à chaque fois qu'elle chantonne, tout le monde va voir son jeu, et à chaque fois elle perd. Et personne ne lui dit pour l'instant.
Comment les signes, mais peut-être plus que les signes, dans le fond, c'est les mots. On s'accroche à des mots. On s'accroche à des chiffres. Sait-on vraiment pourquoi ? Si on voulait vraiment savoir, on le saurait. Mais en tout cas, c'est plutôt comme ça que les choses se passent. On s'accroche à des mots, on s'accroche à des chiffres, mais qui ont une valeur de langage. Et ce qui est curieux, voyez-vous, c'est que finalement, ce qui angoisse le plus le joueur, c'est de ne pas jouer. C'est ça, c'est peut-être ça. Ça, c'est la catastrophe. C'est le pire, voyez-vous. C'est le pire, c'est qu'il soit mis dans des conditions où il ne puisse plus jouer. Qu'il ne puisse plus, justement, assouvir ce besoin de combler. Car il y a, c'est vrai, dans cette pratique, un souci de combler. Combler qui, combler quoi ? On pourrait, évidemment, donner pas mal d'arguments, c'est toujours de ce côté de la consistance, telle que nous l'avons vu avec la religiosité. Il s'agit de combler un ou une autre, si vous voulez, qui est en soi. Et je dirais, dans le fond, il s'agit que de combler une demande qui n'est pas la vôtre. C'est quelqu'un qui demande, qui est en vous, et que vous comblez.
Ça m'évoquait la surface étale du visage impassible de l'homme qui a atteint la maîtrise dans le jeu, du maître. comblé, lui? Ou qui se pose plus la question? Quel rapport il a avec ce comble?
Mais je ne sais pas si nous, on peut l'envier, parce que finalement, bon, ce visage impassible dont vous parlez, et cette maîtrise...
C'est très cinématographique.
Évidemment, comme dans tous les films où il y a l'intervention d'un maître et d'un élève. Le dernier en date, d'ailleurs, La couleur de l'argent, que beaucoup n'ont pas aimé parce qu'il s'attache un peu de façon un peu fétichiste à l'arnaque. À l'arnaqueur, évidemment. Mais bon, ce film, moi, je ne trouvais pas si mauvais. Au contraire, j'ai bien aimé. Mais effectivement, on ne peut pas savoir si le maître est enviable. D'ailleurs, dans ce film, il finit par craquer. En tout cas, il a un moment de faiblesse, justement, parce que il ne peut pas toujours tenir cette fonction qui est, au fond, une fonction un peu factice. C'est une fonction qui est construite. C'est une maîtrise construite. Et je crois que c'est ça qui distingue le vrai maître d'un maître à jouer, parce que le vrai maître, dans le fond, ne se pose pas la question de construire une maîtrise. Et là, dans le jeu, au contraire, il construit sa maîtrise et il a beau être un maître du jeu, c'est quand même du côté de l'illusion.
Mardi du cinéma, les joueurs au cinéma avec Guy Dana, Jean-Marc Roberts, Philippe Solers, Patrick Binsard, Laurent Thierry Migue, René Tostin et Michel Muselac. Une émission de Cécile Amcy. Mixage Sylvain Jaffray, Marie-Dominique Bougot. Réalisation Claude Guerre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 juin 1988.